Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Que reste-t-il des expériences de la démocratie de la Grèce ancienne et des expériences médiévales de l'époque moderne à aujourd'hui ? Et quelle est l'actualité des bases dogmatiques de la démocratie, s'interroge le juriste Alain Supiot. Comment la Révolution française a-t-elle tenté d'ériger la raison avec un grand R en référence suprême, en la déifiant et en lui rendant un culte? Pourquoi faut-il affronter depuis lors la contradiction entre la science moderne et l'humanisme quand on analyse le régime démocratique? Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, nous entraîne dans une grande réflexion autour des figures juridiques de la démocratie économique. Afin de comprendre la spécificité de la culture démocratique occidentale dans le contexte actuel de la globalisation, Alain Supiot interroge la généalogie de cette notion de démocratie économique. Dans le cours précédent, le juriste a montré qu'au Moyen-Âge, comme dans l'Athènes du 5e siècle, la démocratie urbaine a été indissolublement politique et économique et adossée à la religion. Il a pu ainsi présenter des travaux analysant les monastères comme communautés religieuses et économiques, comme des proto-entreprises ayant élaboré, selon ses mots, le premier code de travail. Il avait cité l'adage « Ce qui concerne tous doit être discuté et approuvé par tous ». Analysant les grands apports des médiévaux à notre conception de la démocratie, Alain Supiot avait rappelé, je le cite, que dans le christianisme des origines, l'Ecclésia était donc appelée à délibérer selon des procédures qui universalisaient le modèle démocratique grec. Cette universalisation, dont le projet continue d'animer aujourd'hui les démocraties occidentales, se traduisait par une double extension territoriale et personnelle du champ d'application de la démocratie. Extension territoriale puisque le message de l'Église s'adressait au monde entier et extension personnelle puisque tous les chrétiens en étaient membres à parts égales, indépendamment de leur nationalité, de leurs conditions sociales et de leur sexe. L'autre grand apport des institutions médiévales est le recours à l'élection au sein de l'Église. Pour les canonistes médiévistes, avait souligné Alain Supiot, l'assemblée de parole doit permettre, selon la maxime Vox Populi, Vox Dei, d'identifier le bien commun. Ils sont en cela les continuateurs des Grecs, mais le recours aux idées de consentement et de contrat portait aussi en germe une autre conception de la démocratie, dont l'objet serait moins d'identifier un bien commun s'imposant à tous, que de trouver un compromis ménageant les intérêts de chacun. Alors comment le creuset de la démocratie communale a-t-il été de nature économique au Moyen-Âge ? Comment la croyance en Dieu et dans la force obligatoire de la parole donnée a-t-elle permis aux marchands médiévaux d'inventer la plupart des outils juridiques du capitalisme ? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 2 décembre 2016 pour le cours d'Alain Supiot, aujourd'hui, des bases juridiques médiévales de la démocratie aux bases dogmatiques de l'époque moderne à aujourd'hui.
Nous étions quittés en évoquant les conditions juridiques qui étaient celles du droit municipal des communes libres médiévales. Nous avions évoqué l'ensemble de dispositions qui visaient la dimension économique, donc les privilèges économiques reconnus aux habitants des villes par rapport aux habitants des campagnes. Et ces privilèges économiques allaient de pair avec des éléments de liberté politique, Je vous avais dit que nous étions quittés là-dessus, avant de retourner dans les rues de Paris, que l'air de la ville rend libre. C'était le motto qui désignait cette situation juridique particulière. En réalité, les hommes de ce temps se passaient tout à fait de notre distinction du politique et de l'économique, mais à l'aune de ces catégories de pensée, si on les applique rétroactivement, il est clair que le creuset de la démocratie communale a été de nature économique. Cela est vrai non seulement des privilèges personnels qui étaient accordés aux citadins, mais aussi des privilèges politiques accordés à la cité, considérée comme un ensemble, comme une commune. Alors, le degré de ces privilèges a beaucoup varié d'une ville à l'autre, mais là où ils ont été les plus étendus, ils ont permis l'établissement d'une véritable démocratie communale. Et la première pierre juridique de cette démocratie politico-économique fut le serment que se prêtaient mutuellement les bourgeois et qu'on appelait la conjuration d'entraide. On se promettait mutuellement l'entraide. Les marchands connaissaient déjà ce type de serment d'entraide qui marquait l'appartenance à une guilde, donc à une catégorie particulière de marchands. Mais les guildes organisaient des solidarités à base professionnelle et non pas territoriale. En revanche, les communes tirent leur nom d'un serment de paix, une communio, c'est de là que vient le mot commune, que les bourgeois d'une même ville, donc sur un même territoire, bien que de professions différentes, juraient de respecter entre eux. Et ce serment explique la force du lien communal. Comme dans les cités grecques, d'ailleurs, des dépenses considérables étaient consacrées à l'édification de bâtiments religieux, car ce serment était placé sous l'égide divine. Donc la dimension religieuse est indispensable à avoir à l'esprit si l'on veut comprendre ces fondements, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, les fondements dogmatiques qui ont été ceux de l'invention de la démocratie ou de sa redécouverte à l'époque médiévale. Et c'est dans ces conditions qu'ont été édifiés des bâtiments d'une ampleur et d'une beauté jamais vues. C'est le cas, par exemple, de la cathédrale de Laon, qui est l'une des premières cathédrales gothiques, dont l'architecture a influencé toute l'Europe du Nord, et dont le début de la construction fut contemporain des luttes qui ont été particulièrement dures dans cette ville, je pense que l'évêque y a même laissé sa vie, conduite par les bourgeois pour se faire concéder une charte. Plus généralement, donc, il faut prendre conscience de cette dimension religieuse du proto-capitalisme médiéval. C'est parce qu'ils croyaient tous en Dieu et dans la force obligatoire de la parole donnée que les marchands médiévaux furent en mesure d'inventer la plupart des outils juridiques du capitalisme contemporain. C'est le cas, nous y reviendrons, du trust, de la lettre de change ou de la comptabilité que nous avons évoqué les années précédentes. Mais surtout, j'allais dire avant tout, c'est le cas du consensualisme contractuel. Ce sont en effet les canonistes médiévaux qui ont renversé l'adage reçu du droit romain selon lesquels « ex nudo pacto axio non nascitur ». Vous admirez, j'espère, mon accent romain. C'est-à-dire la règle qui subordonne la force juridique d'un contrat au respect d'un certain nombre de formes. Donc, en droit romain, de simples paroles ne suffisent pas à nous lier. Il y faut des formes. Ce que les glossateurs vont appeler les vestimenta. Il faut que ces échanges de paroles soient vêtus. Et on disait même qu'il faut qu'ils soient chaudement vêtus pour certains contrats, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de formes pour être engagé par sa parole. Mais la parole seule ne suffit pas à vous engager. Et c'est le renversement de ce principe qui est opéré par les canonistes médiévaux. Et ce sont eux les inventeurs de la règle pacta sunt servanda, c'est-à-dire la force obligatoire des conventions. Bon, comment s'est opéré ce renversement? L'Église combattait l'usage du serment dans les transactions commerciales, car elle considérait que, face à Dieu, la simple promesse engage tout autant, et qu'on ne devait pas, d'ailleurs, trop mêler Dieu aux affaires de commerce. L'idée, c'est que les actes du chrétien doivent toujours être fondés sur la vérité. Le fidèle, d'ailleurs le mot même de fidèle, est celui qui est d'abord fidèle à sa parole. Celui qui promet et ne tient pas sa promesse agit contrairement à la vérité, il trompe son prochain et il commet un péché mortel. Et donc le respect de la parole donnée a d'abord été posé comme une règle morale fondée sur les Écritures et sur la jurisprudence des pères de l'Église. Le chrétien qui ne tient pas sa parole encourt les peines ecclésiastiques attachées au mensonge. Et c'est au XIIIe siècle que cette règle morale s'est muée en obligation juridique. En 1212, la Glossa Ordinaria du décret de Gratien attribue une force juridique à l'obligation de respecter les simples conventions et l'a sortie d'une action en justice. Et cette solution a été reprise dans les décrétales de Grégoire IX en 1230, et elle a dû s'imposer face au principe contraire qui était hérité du droit romain et qui, dans les universités médiévales, alors ça c'était les romanistes, qui continuaient à en tenir pour la théorie des vestimenta. Mais la théorie des canonistes a fini par l'emporter et elle a été définitivement adoptée par les post-glossateurs du droit romain ainsi qu'en France dans la première moitié du XVIe siècle. Et le Code civil lui a donné la formulation célèbre du regretté article 1134, je dis regretté parce que toute ma génération en a été élevée, maintenant c'est 1103, mais ne mémorisez pas, ça va changer encore prochainement de numérotation. Mais le texte, lui, est gravé dans le marbre, les conventions légalement formées, donc là l'idée de convention c'est l'échange de paroles, c'est autre chose que contrat, mais si elles sont légalement formées, elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La chose qu'il faut noter, c'est évidemment l'intrication totale qu'il y a entre l'idée de contrat et l'idée de loi, puisque le terme de légal et loi intervient deux fois dans la formulation. Donc c'est donc bien parce qu'il y a une loi verticale qui vous oblige à respecter la parole donnée qu'on peut faire crédit et donc peut se développer, se déployer un champ des conventions, aussi bien dans l'ordre civil que dans l'ordre commercial. C'est donc parce qu'on a cru en l'existence d'un Dieu unique qui voit tout, pour le dire comme le professeur Stolice, l'œil de la loi veille jour et nuit, et face auquel nul ne doit jamais mentir, que la simple convention, c'est-à-dire le pacte nu, a fini par être identifiée au contrat. Autrement dit, la notion moderne de contrat n'aurait pu se développer sans la foi dans un garant universel de la parole donnée. Or, le crédit accordé à la parole, le respect de la vérité, sont, nous l'avons vu, des conditions sine qua non de la démocratie en tant qu'assemblée de parole. C'est parce que, lorsqu'on rentre dans le cercle de la parole démocratique, chacun doit avoir une parole sincère, que peut se nouer ce débat démocratique, même dans cette dimension agonistique où chacun a une représentation de la vérité, mais il y croit sincèrement qu'il va s'opposer à celle d'un autre. Mais si vous arrivez sur cette scène démocratique en mentant, à ce moment-là, la démocratie n'est plus possible. Alors cette idée-là était déjà présente chez les Grecs, nous l'avons vu, mais là, elle acquiert valeur juridique. On voit ici les liens inextricables dans le creuset médiéval qui unissent religion, démocratie et économie. Produit économique du christianisme, et non pas loi naturelle, comme l'affirmeront Hume ou Hayek, le consensualisme contractuel allait devenir la pierre angulaire de l'idée de contrat social dans l'ordre politique, en même temps que le plus puissant des outils du capitalisme. La réforme protestante, ainsi que l'a soutenu Max Weber, a sûrement favorisé l'essor ultérieur du capitalisme, mais elle n'en a pas été la cause première. Ces conditions juridiques premières sont posées dans le mouvement que je viens de vous exposer sur les origines du consensualisme. Alors, défendu par les premiers glossateurs, le formalisme contractuel continuait toutefois d'imprégner les mentalités des bourgeois des premières communes médiévales, et c'est pourquoi il recourait au serment. Donc ce serment soudait une communauté d'égaux, unis par une même foi, poursuivant les mêmes objectifs économiques. Et la conjuration d'entraide a servi à d'autres fins, d'ailleurs économique que la fondation des communes. C'est elle qui est à la base juridique aussi des corporations, dont les maîtres prêtaient ce type de serment, d'où le nom de jurande. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer tous les systèmes des corporations, je le présume connu, donc c'est l'organisation professionnelle par métier, avec une hiérarchie apprenti-compagnon-maître. Et ces corporations sont organisées sur un modèle entre les maîtres démocratiques qui se prêtent mutuellement serment. Et c'est aussi cette technique du serment collectif qui est à la base du compagnonnage, qui nous intéresse plus directement parce que le compagnonnage est l'ancêtre aussi bien du syndicalisme que de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, j'en en parlerai pas beaucoup dans ce cours, mais en revanche, le compagnonnage organisait la solidarité des compagnons face au maître à l'intérieur de chaque corporation. C'est donc une sorte de proto-syndicalisme. Il mériterait une étude approfondie du point de vue de l'histoire de la démocratie économique. En effet, les sociétés de compagnons se présentaient comme des sociétés initiatiques qui se donnaient à elles-mêmes leurs propres règles. Donc elles répondaient à la définition que nous sommes donnés de la démocratie économique. Leurs membres étaient liés par l'observation de rites qui différaient de l'une à l'autre, et elles sont nées à la faveur de la construction des cathédrales. On retrouve le lien avec le religieux, et elles ont été, cette construction a été vécue par beaucoup à l'image biblique de la construction du temple de Salomon. La préservation et la transmission des savoir-faire exigés par les différents corps de métiers qui œuvraient à l'édification de ces édifices gigantesques était un enjeu majeur. Et vous savez sans doute que le mot « métier » a pour double origine le service divin, donc le ministerium, et le mystère, le mysterium. Donc il y a des savoir-faire incorporés dans le compagnon, qui sont aussi des savoir-faire secrets qu'on ne partage pas avec l'extérieur. Et Martin Saint-Léon, qui a fait l'histoire du compagnonnage au début du XXe siècle, distingue trois de ces sociétés de compagnons dont les relations furent souvent très conflictuelles. Les enfants de Salomon, et là vous voyez la référence à chaque fois, est référence biblique, les enfants de Salomon qui s'appelaient les compagnons du devoir de liberté. Deuxièmement, les enfants de Maître Jacques, qui étaient les compagnons du devoir, qui s'appelaient aussi dévorants, j'aime beaucoup ce qualificatif. Et enfin, les enfants du père Soubise, qui était une branche dissidente des compagnons du devoir. Alors chacune de ces catégories de compagnons référait ainsi une fraternité de métier à la figure paternelle et mythique d'un des constructeurs du temple de Jérusalem. C'était le cas de Soubise, de Maître Jacques, où Salomon le commanditaire. Et comme les corporations, le compagnonnage avait une base professionnelle et non territoriale. Mais à l'instar de la franc-maçonnerie, il s'agissait de sociétés secrètes, soudées par des rituels initiatiques, des signes de reconnaissance et des emblèmes. Donc, les compagnonnages réunissent une aristocratie ouvrière et elles assuraient notamment l'accueil, le placement des compagnons circulant d'une ville à l'autre, ainsi qu'une certaine solidarité face à la maladie et aux accidents. C'est là que sont les origines de ce qu'allait être le mutualisme, par exemple. Et c'est seulement au temps moderne, en réaction avec la dérive oligarchique des corporations, que le compagnonnage évolua en une sorte de proto-syndicalisme dont la mission première fut d'organiser la solidarité ouvrière face aux maîtres des jurandes, notamment en recourant à des actions collectives, alors on n'appelait pas ça des grèves à l'époque, mais des cabales, et il y avait une variété de cabales dont les noms vous sont connus peut-être, le charivari, la mise en interdit d'un artisan, voire ce qu'on appelait la damnation d'une ville tout entière, c'est-à-dire que tous les compagnons quittaient cette ville pour aller travailler ailleurs, parce qu'ils considéraient que les maîtres dans cette ville ne donnaient pas des conditions de travail suffisantes. Et dans les communes médiévales, ces différences n'étaient pas encore si marquées. Le processus de décomposition des corporations est plus tardif. Et les corporations jouaient pleinement leur rôle d'organisation et de représentation des différents métiers, tels que mise en scène architecturale, par exemple, sur la Grand Place de Bruxelles. Alors, cette Grand Place de Bruxelles, je la citais toujours à mes étudiants pour leur expliquer ce qu'était un marché, puisque on y voit l'hôtel de ville. Alors, il y a une horloge, je reviendrai sur l'horloge, mais enfin, qui est le garant des poids et mesures, donc qui incarne la verticalité de la loi qu'il faut respecter. Il y a la place, et tout autour de la place, eh bien, on a les corporations. Et les privilèges consentis aux communes furent d'abord de nature judiciaire. C'est-à-dire le droit reconnu à la commune d'avoir ses propres tribunaux, d'élire ses juges, les échevins, héritiers des scabini carolingiens, dont les fonctions se sont ensuite étendues à tout ou partie de l'administration de la ville. Au départ, c'était la possibilité de rendre justice. Élus par les bourgeois, ils sont nommés par le seigneur qui octroyait la charte et qui se portent garants d'exécution de leur jugement. Donc, cette administration communale obéit à une logique du jugement par les pairs. Et ces juridictions échevinales furent assorties de garanties procédurales et d'un régime de preuves qui favorisait le recours à l'écrit dans les transactions contractuelles. Mais l'autonomie politique de la commune ne se limitait pas à cette dimension judiciaire. Elle fut pensée sur le mode de la seigneurie collective et s'intégrait du reste comme telle sans heurts dans le droit féodal. Comme au fond, la ville, la commune libre, était pensée comme ce qu'on appelait un seigneur banal, qui avait un certain nombre de prérogatives, notamment judiciaires et économiques. Donc, elle se protège par des murailles, elle a ses gens d'armes, ses hommes de guet, elle gère son domaine, lève ses impôts et se dote de ses propres emblèmes et armoiries comme un seigneur. Mais elle se déploie spatialement selon un plan et une architecture qui, à l'instar de la cité grecque, donnent à voir son organisation politique et économique ainsi que ses références religieuses. Toute grande ville a sa cathédrale, mais aussi sa grande place avec son hôtel de ville surmonté d'un beffroi équipé d'une horloge qui, comme dans les monastères, marque à la fois une certaine représentation de la marche du monde et de l'activité économique des hommes. C'est absolument central pour, là aussi, les origines du capitalisme, cette place centrale accordée à l'horloge comme objet symbolique qui marque à la fois l'ordre cosmique voulu par Dieu, le grand horloger, et celui qui doit être observé par les hommes dans leur travail. Parmi donc les plus célèbres de ces places, il y a bien sûr celle de Bruxelles, qui est reconstruite pour l'essentiel au XVIIe siècle, mais dont le plan rend visible cette idée d'un encastrement du marché dans la vie politique et sociale. Ceux d'entre vous qui sont allés à Bruxelles, là j'ai fait la liste des maisons des corporations, donc vous avez les marchands, les corporations qui fabriquent les différents produits, qui vont être échangés sur la place, et qui chacune sont marquées par un édifice particulier. Ou encore, pour revenir en Italie, la Piazza del Campo de Sienne, dont le plan en amphithéâtre autour du palais public imprime dans la pierre l'idéal retrouvé d'une assemblée de paroles par laquelle les citoyens règlent eux-mêmes les affaires qui sont les leurs. Et comme celui de l'Athènes du Ve siècle avant Jésus-Christ, le plan de Sienne s'organise autour de trois lieux distincts, mais qui font système, la place et le palais public, la place du marché et la cathédrale qui domine l'ensemble. La construction de cette dernière, comme celle de toutes les cathédrales médiévales, a duré plus d'un siècle, de 1226 à 1370. Notre-Dame de Paris, c'était 1160-1250. Cette durée excède de beaucoup la temporalité de n'importe quelle entreprise contemporaine, exception faite sans doute de l'enfouissement des déchets nucléaires. Alors, elle témoigne, à l'instar du Panthéon, de la profondeur des bases dogmatiques sur lesquelles furent fondées les communes médiévales. Alors, aujourd'hui, à l'invitation d'un certain nombre de sociologues ou d'économistes, on tend à ramener ces différents lieux à un paradigme unique, celui du marché. J'y reviendrai lorsqu'on va parler de la période contemporaine, par exemple, de penser à la démocratie comme marché électoral. Donc, il y a le marché électoral, il y a aussi le marché des religions dans la Cour suprême. Donc, chacun doit être libre de choisir, c'est un marché, les religions font leur marché. Cela témoigne d'une ignorance des bases dogmatiques du marché, ignorance qui pourrait être fatale au capitalisme comme, du reste, à la démocratie. En effet, la dynamique du capitalisme n'aurait pas été possible durant la période médiévale si la communauté des marchands n'avait été soudée, au-delà de leur appartenance à une cité particulière, par une foi commune qui garantissait la valeur de la parole donnée. C'est sur cette base que put s'affirmer, nous l'avons rappelé, le consensualisme contractuel donc l'idée de contrat social, mais aussi les premiers grands outils du capitalisme. Si vous prenez la lettre de change, le marchand génois qui signait une lettre de change qui était attirée sur un de ses confrères aux Pays-Bas, ils étaient unis, ils appartenaient à des configurations politiques différentes, mais c'est la foi commune qui donnait sa force à cet outil juridique. Donc, qu'on l'aborde par son versant linguistique, l'assemblée de paroles, comme nous l'avons fait très rapidement au début de ce cours, ou par les expériences grecques ou médiévales, la démocratie implique toujours l'existence donc d'une référence commune, référence avec un grand R, sous l'égide de laquelle plusieurs locuteurs ou plusieurs citoyens vont pouvoir confronter leurs points de vue et tenter de s'accorder sur une représentation partagée de ce qui est et de ce qui doit être. La question se pose donc de savoir ce qui est advenu de cet élément de la structure démocratique dans nos sociétés sécularisées. Pour clore ce chapitre, je vais donc aborder brièvement l'actualité de cette question des bases dogmatiques de la démocratie. Le besoin de telles bases n'a nullement disparu après que la réforme et les guerres de religion eurent brisé l'unité de la référence jusqu'alors incarnée par la papauté. Parce que la papauté a joué ce rôle. Il aurait été aussi étrange pour un marchand médiéval de s'entendre demander s'il croyait au pape que si vous demandez aujourd'hui à un homme d'affaires américain s'il croit à la Cour suprême. C'est en ce sens référence, c'est pas référence religieuse au sens d'un sentiment particulier. C'est au sens d'une source qui permet d'accorder crédit aux paroles. C'est uniquement de cela que nous parlons. Alors, cette nécessité est particulièrement évidente dans le cas des opérations de crédit, qui ne sont pas concevables sans une foi partagée dans un tiers garant des conventions. De son voyage aux États-Unis, Max Weber rapporte ainsi cette réflexion savoureuse d'un homme d'affaires américain. « Ce que peut croire chacun m'est bien égal, mais si j'apprends au sujet d'un client qu'il ne fréquente pas son église, alors ça peut être une synagogue, ça peut être... alors pour moi, il ne vaut pas 50 cents. Why pay me if he doesn't believe in anything ?» S'il ne croit en rien, comment pourrais-je croire à sa parole ? Au cœur donc du calcul rationnel autorisé par le contrat se trouve donc une croyance dont seul l'objet peut changer. Tocqueville note ainsi dans La démocratie en Amérique « Je doute que l'homme puisse jamais supporter à la fois une complète indépendance religieuse et une entière liberté politique et je suis porté à penser que s'il n'a pas la foi, il faut qu'il serve » et s'il est libre, qu'il croit. Alors, aussi longtemps que pour les Occidentaux, le monde civilisé s'est identifié au monde chrétien, les nations qui le composaient étaient présumées partager une référence religieuse commune. Autrement dit, le règne de la loi était tridimensionnel. Il articulait la loi divine, les lois humaines et les lois de la nature. Ou pour le dire autrement, dans des termes plus modernes, la religion, le droit et la science. Ce montage normatif était celui des formes antiques et médiévales de démocratie. Mais il a été mis en péril dès que la clé de voûte religieuse de cet édifice imaginaire a cédé, laissant, si l'on peut dire, face à face les lois humaines et les lois de la nature. C'est dès le XVIIe siècle que cet édifice a commencé de se lézarder. On le voit sous la plume du grand juriste hollandais Grotius, qui formula le premier ce qui a été appelé l'hypothèse impie. L'hypothèse impie, c'est celle de l'absence de Dieu. Que se passerait-il si Dieu n'était pas là ? Eh bien, après avoir expliqué comment la source du droit se trouvait dans un, dit-il, un soin de la vie sociale conforme à l'entendement humain, fin de citation, Grotius affirme que tout ceci aurait lieu quand bien même nous admettrions ce qui ne saurait l'être sans grand crime, qu'il n'y a point de Dieu ou qu'il ne se soucie pas des affaires humaines. Le bon Dieu s'en fout. Alors, même dans cette hypothèse, resterait ce soin de la vie sociale conforme à l'entendement humain qui suffirait à être la base de l'édifice religieux. Et près de deux siècles plus tard, ce qui prouve d'ailleurs que les juristes sont souvent très en avance sur les scientifiques, Laplace ne dira pas autre chose en déclarant à Bonaparte n'avoir pas eu besoin de l'hypothèse de Dieu pour mener à bien son exposition du système du monde. Donc, à la ternarité des lois que nous avions antérieurement divines, naturelles et humaines, les Lumières ont ainsi substitué la dualité des lois humaines et scientifiques unies sous l'égide de quoi ? Sous l'égide de la raison. Et c'est cette raison que la Révolution française tentera d'ériger en référence suprême, en la déifiant et en lui rendant un culte. À cette fin, un certain nombre d'églises, une fois brisées les statues qui les ornaient précédemment, bon, il ne faut pas croire que le saccage des images et des monuments jugés idolâtres soit une invention des islamistes. Et la France a beaucoup donné dans cet exercice. Donc, ces édifices furent reconvertis en temples de la raison. Ça n'a pas très bien marché, cette entreprise. Parce que, relevant lui-même de l'idolâtrie des idées, le culte de la raison n'a pas eu plus de succès que la République platonicienne. Dès lors qu'elle est identifiée à la science, ce qui est une tendance encore contemporaine, d'identifier la raison et la science. À mon sens, c'est une erreur, mais ça peu importe pour l'exposé qui nous occupe ici. Dès lors qu'elle est identifiée à la science, donc la raison ne peut occuper la place du tiers entre l'homme et la nature, ou entre les hommes. Cette place est laissée vacante par l'effacement de la référence religieuse. Et la question, dès lors, s'est posée de savoir comment concilier l'autorité des lois humaines, assurant la liberté et l'égalité entre les hommes, avec celle des lois de la physique classique ou de la biologie darwinienne, qui donnent à voir le primat absolu de la force dans l'ordre de la nature.
Le Collège de France et France Culture vous présente le juriste Alain Supiot, aujourd'hui des bases juridiques médiévales de la démocratie aux bases dogmatiques de l'époque moderne à aujourd'hui.
Au XIXe siècle, le fondateur du positivisme, Auguste Comte, dont vous pouvez admirer la statue à deux pas d'ici, était tout à fait conscient de ce problème, à la différence des scientistes d'aujourd'hui. Et il avait cru pouvoir le résoudre en plaçant le positivisme scientifique sous l'égide, alors lui, non pas de la raison ou de la déesse raison, mais sous l'égide d'une religion de l'humanité à laquelle on aurait rendu là aussi un culte dans des temples de l'humanité, du type de celui que l'on peut encore visiter aujourd'hui à Paris, rue Payenne, où logeait Clotilde de Vaux, dont la brève existence illumina celle de Comte et qui fut l'égérie d'Auguste Comte. Mais le plus remarquable de ces lieux de culte de l'humanité se trouve à Rio de Janeiro, et je suis allé pour vous, mes amis, photographier ce temple. On peut lire, et on va le regarder d'un peu près, on peut lire sur son frontispice la devise de la religion de l'humanité, que vous avez vue à l'instant, d'ailleurs c'est la même de la rue Payenne, l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour fin. Vous me direz pourquoi c'est à Rio de Janeiro qui est le dernier grand temple positiviste. Eh bien c'est pas par hasard, la fondation de la première république indépendante du Brésil doit beaucoup en effet à des disciples de Comte, dont Benjamin Constant, on donnait comme prénom aux enfants Benjamin Constant à l'époque de Magalhães, qui ont inspiré la devise du pays, toujours en vigueur, ordre et progrès. Dans la religion de l'humanité, donc concienne, les religions d'avant la science étaient fondées sur une révélation divine. Aujourd'hui, la révélation, avec Comte, va céder la place à la découverte scientifique. Mais comme l'indique l'étymologie, vous savez que révélation vient de velare, velum, on lève le voile, Révélation et découverte, on découvre, sont deux mots synonymes qui désignent tous deux un dévoilement. Mais la première, la révélation, dévoile une vérité transcendante, et la seconde, une vérité immanente. Tandis que la révélation vient d'en haut, la découverte vient d'en bas, de l'observation de la nature. Pour le dire autrement, c'est la science qui occupe dans la religion de l'humanité la place qui est celle du livre, des écritures sacrées, dans les monothéismes. Elle est l'interface entre le visible et l'invisible, et la source de toute connaissance vraie. Père du positivisme, Kant est aussi l'auteur de notre classification, en réalité toujours en vigueur dans nos institutions universitaires, de notre classification des sciences. Classification qui va du plus abstrait et du plus général, les mathématiques, au plus concret et au plus spécifiquement humain, la sociologie, vous savez que c'est Kant qui invente le concept de sociologie, et la morale. Et cette gradation est reproduite sur l'escalier d'accès au temple de Rio. Et cette classification est aussi une hiérarchie. Chaque science dépendant des précédentes sans que celle-ci soit sous sa dépendance. Par exemple, les corps vivants sont soumis aux lois de la chimie. Les objets chimiques sont eux-mêmes dépendants de la physique qui est à son tour régie par les mathématiques. Mais les corps vivants ont leurs lois propres qui sont celles de la biologie. On va ainsi de la plus solide des sciences, les mathématiques, à la plus fragile mais aussi la plus haute, la morale, qui couronne l'échelle des savoirs en même temps qu'elle en procède. Donc il y a l'idée, vous voyez, de fonder un ordre humain normatif sur la science. Et cette gradation des lois scientifiques et des lois humaines est placée sous l'égide de la foi religieuse en l'humanité telle qu'elle est emblématisée dans la partie supérieure du temple. Bon, conformément aux vues de Feuerbach sur la mutation du christianisme en religion de l'homme, là je vous renvoie quand même ce très beau texte sur l'essence du christianisme de Feuerbach, cette religion de l'humanité, alors si je puis me permettre le mot, elle recyclait très explicitement les dogmes fondateurs du christianisme, en faisant même de Clotilde de Vaux le symbole de l'amour virginal. Et alors, j'ai eu l'attention attirée pendant cette visite sur l'inscription qui figure sur le tympan du temple. On peut lire « Vierge mère, fille de ton fils, puis-je t'aimer plus que moi-même et m'aimer en toi seulement ?» Eh bien, cette citation associe un vers de Dante, « Vierge mère, fille de ton fils » et une prescription de l'imitation de Jésus-Christ. Alors, le vers de Dante annonce, si je puis me permettre cette toute petite incursion dans le droit des personnes, le retournement de la carte catholique qui voit aujourd'hui la science servir les fantasmes de vierge mère et de père sans épouse. Fantasme d'un être qui serait capable d'engendrer sans le concours de l'autre sexe, qui sont le trait le plus spécifique du creuset mythique du christianisme. Parce que dans les autres cosmogonies, il y a toujours du masculin et du féminin. Il n'y en a pas dans le... Et donc là, cette formule « Vierge mère, fille de ton fils », enfin, on est au bord du délire. Vous voyez, alors, quand on n'est pas au bord, on est en plein dedans. Quant à la citation illustrant l'amour d'autrui comme premier principe de la religion de l'humanité, elle témoigne de ce que la vision biologique de la pensée qu'avait Kant, alors qui est aujourd'hui la vision dominante de tous ceux qui se désignent comme des monistes. Il n'y a rien que de la matière. Cette conception conduisait Kant à retrouver une intuition religieuse. Parce qu'il était très fort, Kant. C'était un esprit très puissant. Placé face au néant et à l'absurde par le solipsisme de sa vie subjective, cérébrale, l'homme ne peut vivre que dans et par l'humanité. C'est ce qu'il exprime dans la deuxième partie de la devise. Alors, vous me direz, tout ça, cet attirail de la religion positiviste, c'est bien ancien. Je ne pense pas. Il me semble qu'une fois débarrassé de la liturgie kantienne, une fois oublié Clotilde de Vaux, cette référence à l'humanité a continué de jouer un grand rôle tout au long du XXe siècle. C'est à elle que Jaurès dédie le titre du journal qu'il fonde en 1904, écrivant dans l'éditorial du premier numéro que, je cite, « L'humanité n'existe point encore ou elle n'existe à peine. Elle est compromise et comme brisée. Seul le socialisme, en absorbant toutes les classes dans la propriété commune des moyens de travail, résoudra cet antagonisme et fera de chaque nation enfin réconciliée avec elle-même une parcelle d'humanité. » Donc on a ici cet horizon eschatologique d'une humanité soudée. Et la référence à la religion de l'humanité se retrouve après la Première Guerre mondiale sous la plume d'un professeur au Collège de France, Alfred Loisy, à qui l'on impute, avec de bonnes raisons, la crise moderniste du catholicisme. C'est-à-dire, il est l'un des premiers à avoir plaidé et pratiqué une approche historico-critique des livres saints, ce qui lui a valu d'être excommunié, puis ensuite ramené dans le giron de l'Église à la fin de sa vie. Enfin, mon ami Thomas Remer a fait tout un colloque sur Loisy pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, titulaire de la chaire d'histoire des religions au Collège de France, Loisy a publié en 1919 un article au titre des plus explicites « La société des nations et la religion de l'humanité ». Dans cet article, il avance, je cite, que l'existence de la société des nations implique, elle exige, elle devra produire pour durer elle-même une religion d'humanité. Fin de citation. Et selon lui, les principes de cette religion nouvelle ont été déjà créés et formulés par le président Wilson. Donc c'est très intéressant le personnage, enfin le Loisy, parce que il incarne dans sa personne, si je puis dire, cette mutation du religieux vers la religion de l'humanité. Mais comme l'a montré justement l'échec de la Société des Nations, ces tentatives ont échoué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'idée dominante était que la seule référence normative qui puisse s'imposer universellement était la science, et que les lois humaines devaient donc être fondées sur les lois de la science. Je ne dirais pas que cette idée est disparue aujourd'hui. Tout comme les lois religieuses dans un régime non sécularisé, les lois de la science ne procèdent pas en effet de la démocratie, mais s'imposent à elle. Tel a été le sens de l'entreprise nazie, fondée sur la croyance en un processus darwiniste de sélection naturelle des races humaines les plus aptes, dont la supériorité se révélerait dans leur capacité à exterminer ou dominer les races inférieures. Hitler ainsi cherchait à exclure du champ des affaires humaines toute autre loi que celle régissant la nature. L'homme, déclarait-il, ne doit jamais tomber dans l'erreur de croire qu'il est seigneur et maître de la nature, donc ça vise Descartes. Il sentira dès lors que dans un monde où les planètes et les soleils suivent des trajectoires circulaires, où des lunes tournent autour des planètes, où la force règne partout et seule en maîtresse de la faiblesse, qu'elle contraint à la servir docilement ou qu'elle brise, l'homme ne peut pas relever de loi spéciale. Alors, Simone Weil a été très impressionnée par ce passage de Mein Kampf, et selon elle, Hitler dévoilait, ce faisant, la contradiction qui travaille le monde moderne depuis la révolution scientifique des XVIe, XVIIe siècles, en portant à ses conséquences extrêmes le credo scientiste de son temps. Hitler a très bien vu, écrit-elle, l'absurdité de la conception du XVIIIe siècle encore en faveur aujourd'hui, et qui d'ailleurs a déjà sa racine dans Descartes. Depuis deux ou trois siècles, on croit à la fois que la force est maîtresse unique de tous les phénomènes de la nature, et que les hommes peuvent et doivent fonder sur la justice reconnue au moyen de la raison leurs relations mutuelles. C'est une absurdité criante. Il n'est pas concevable que tout dans l'univers soit absolument soumis à l'empire de la force et que l'homme puisse y être soustrait alors qu'il est fait de chair et de sang et que sa pensée vagabonde au gré des impressions sensibles. Il n'y a qu'un choix à faire. Ou il faut apercevoir à l'œuvre dans l'univers, à côté de la force, un principe autre qu'elle, où il faut reconnaître la force comme maîtresse unique et souveraine des relations humaines aussi. Elle met le doigt sur le problème fondamental des bases démocratiques dans le monde contemporain, et elle considère qu'au lieu d'affronter cette contradiction entre la science moderne et l'humanisme, on s'est efforcé d'y échapper, en postulant l'existence de ce qu'elle nomme, l'expression est très jolie, de merveilleux petits mécanismes, au moyen desquels la force, en entrant dans la sphère des relations humaines, deviendrait productrice automatique de justice. Elle identifie trois de ces petits mécanismes, dont la succession ou la lutte ont en effet dominé l'histoire de ces deux derniers siècles. Le premier serait le libéralisme. Pour le libéralisme, la justice suppose de laisser s'exercer la force de l'argent et de brider en revanche celle des armes et du pouvoir politique. Deuxième mécanisme, le marxisme. La force est baptisée alors histoire et s'exprime dans la lutte des classes qui accouchera de la justice au lendemain du grand soir révolutionnaire. Et troisième mécanisme, le nazisme. Et Hitler a, là, je cite ici Simone Veil, emprunté son modèle de machine aux gens qui l'obsédaient continuellement par la répulsion qu'il lui inspirait. Il a simplement choisi pour machine la notion de la race élue, la race destinée à tout faire plier et ensuite à établir parmi ses esclaves l'espèce de justice qui convient à l'esclavage. Fin de citation. Alors, le point commun, selon elle, de ces merveilleux petits mécanismes est de faire reposer le gouvernement des hommes sur des lois de la science supposées, sciences économiques pour le libéralisme, historique pour le marxisme, biologique pour le nazisme, dont les lois humaines seraient des simples instruments. Ces lois scientifiques, une fois établies, il n'y a plus qu'à les observer, et le champ de la délibération démocratique est ainsi appelé à rétrécir au fur et à mesure des progrès de la science, jusqu'au jour où il deviendra totalement inutile. Il n'y aura plus rien à délibérer, puisque nous saurons tout. À l'hétéronomie d'une révélation religieuse succéderait alors celle d'une abstraction philosophique ou scientifique. La paternité de cette dernière conception dans la tradition occidentale peut être peut-être attribuée à Platon, et là, Simone Veil ne serait sûrement pas d'accord avec ce que je suis de vous dire, parce qu'elle adorait Platon, qui, dans les lois, pense la cité sur le modèle du ciel des idées, et plus précisément sur les idées de proportion et d'harmonie venues des mathématiques. L'idée de droit naturel, telle que définie par la philosophie des Lumières, c'est-à-dire ce qu'en allemand on appelait le Vernunftrecht, le droit de la raison, s'inscrit dans cette veine, et c'est elle qui conduira, par exemple, Condorcet, que je crois avoir déjà cité, à critiquer vertement la défense par Montesquieu de la relativité des lois et à préconiser l'établissement d'un droit universel et uniforme à l'échelle du globe. La science est une, les lois doivent être une. C'était la position de Condorcet. Mais pas plus que celle de Platon, cette conception ne laisse de place à la délibération démocratique des lois qui serait propre à un peuple donné sur un territoire donné. Et cette vision universelle et abstraite est aujourd'hui à l'œuvre dans la gouvernance par les nombres, au travers notamment de l'analyse économique du droit qui prétend, elle aussi, ramener la détermination de toute espèce de règle à un calcul d'utilité. Et elle semble n'avoir pas d'autre opposition frontale aujourd'hui que celle des fondamentalismes religieux qui se veulent aussi les messagers d'une loi intemporelle et universelle et sont eux aussi des ennemis résolus de la diversité des écoles juridiques, des mœurs et des traditions. Donc, typique de la modernité, cette dogmatique est-elle tenable ? Là, le juriste peut modestement... Le droit ne sert pas... Enfin, il sert quand même un peu à quelque chose... Mais il y a quelquefois un peu de prévisibilité et on peut dire que cette vision est intenable. Elle l'est pour au moins deux raisons. La première est que la représentation scientifique du monde n'est pas indépendante de l'imaginaire social qui domine une société à un moment donné. Les scientifiques sont imprégnés de cet imaginaire en même temps qu'ils contribuent à le façonner. Voici par exemple... comment Durkheim, le grand Émile Durkheim, se référait à la biologie de son temps pour éclairer l'effet des progrès de la civilisation sur la division sexuelle des sexes. C'est un texte que vous trouvez dans la deuxième préface de son maître ouvrage, La division du travail social. Le docteur Lebon a pu établir directement et avec une précision mathématique. Donc là, il n'y a plus à discuter. La ressemblance originelle des deux sexes pour l'organe éminent de la vie physique et psychique, le cerveau. Bon. Le bon était de ce qu'on a appelé ensuite les mesureurs de crâne, donc les gens qui sont remplacés aujourd'hui par certains pans dégradés du cognitivisme. En comparant un grand nombre de crânes choisis dans des races et dans des sociétés différentes, il est arrivé à la conclusion suivante. Et ici, Durkheim cite le bon. Le volume du crâne de l'homme et de la femme, même quand on compare des sujets d'âge égal, de taille égale et de poids égal, présente des différences considérables en faveur de l'homme, et cette inégalité va également s'accroissant avec la civilisation, en sorte qu'au point de vue de la masse du cerveau et par suite de l'intelligence, La femme tend à se différencier de plus en plus de l'homme. La différence qui existe, par exemple, entre la moyenne des crânes des Parisiens contemporains et celle des Parisiennes est presque double de celle observée entre les crânes masculins et féminins de l'ancienne Égypte. Donc, vous voyez, le progrès de la civilisation va avec le rétrécissement du crâne et des capacités intellectuelles des femmes, et c'est établi mathématiquement. Alors, si ça plaît à Durkheim à l'époque, c'est parce que ça conforte sa loi d'un passage de solidarité mécanique à des solidarités biologiques. Donc il dit, voilà, maintenant, ma thèse sociologique est fondée en biologie, dans la mesure du volume des crânes. Donc la biologie de la fin du XIXe siècle s'accordait ainsi pleinement avec l'inégalité des hommes et des femmes devant la loi civile ou électorale, et elle confirmait, encore une fois avec une précision mathématique, la thèse donc du passage d'une solidarité à l'autre. Et ce qui était vrai de la différence entre les sexes l'était également de la différence entre les peuples, la biologie raciale apportant une caution scientifique à la colonisation, même si ce n'était pas la position de Gustave Le Bon, il faut le dire par respect pour sa mémoire. Aujourd'hui, c'est avec la même assurance que l'on proclame que la génétique aurait prouvé l'égale dignité des êtres humains. La Déclaration universelle sur les génomes humains et les droits de l'homme de l'UNESCO de 1997 affirme ainsi, dans son article premier, que le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et leur diversité. Donc le principe juridique de dignité serait fondé dans la biologie. Alors, évidemment, problème s'il y a des découvertes ensuite, qu'il y a des variations de génome, est-ce qu'il faudra renoncer au principe ou à l'égalité des hommes et des femmes? Donc, vous voyez, là, il y a un refus de considérer la dimension proprement dogmatique d'un ordre juridique qui ne doit pas être dans la dépendance d'un état donné de la science. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle, je pense, cette position scientiste est intenable. La seconde raison pour laquelle il est parfaitement illusoire de chercher à asseoir un régime politique sur la science est que c'est le droit qui donne à la libre recherche scientifique ses bases normatives, et non pas l'inverse. La science a besoin d'une base juridique qui lui accorde valeur et protection. Et l'entreprise scientifique ne peut se déployer librement sans cette base. Sans cette base, elle dégénère en scientisme. Et elle n'est nulle part davantage menacée que dans un système normatif fondé sur une certaine vérité scientifique officielle. Alors, on en a des exemples dans, je ne sais pas, la biologie soviétique à la Lysenko, enfin, ou à le nazisme, qui a vu les meilleurs de ses scientifiques pourchasser, partir. À partir du moment où vous mettez au cœur d'un système normatif une certaine représentation de la science, c'est la fin de la libre recherche scientifique. Donc, c'est pourquoi la libre recherche scientifique a besoin, elle repose sur des bases qui sont, elles, pas de nature scientifique et que l'on peut dire de nature dogmatique. Un esprit aussi puissant que Max Weber l'avait bien perçu lorsqu'il remarquait que le sens et la valeur des actions humaines ne sont pas du ressort des sciences de la nature. Et les régimes donc, qui depuis un siècle ont prétendu reposer sur des bases scientifiques, que ce soit la biologie raciale ou le socialisme scientifique, sont aussi ceux qui ont engagé la science dans des impasses, en interdisant toute recherche susceptible de les contredire. Donc, les lois humaines ont toujours fini par avoir raison des pseudo-lois scientifiques auxquelles se réfèrent des régimes politiques de ce type. Et c'est une expérience riche d'enseignements qui montre que la science ne peut s'autofonder et qu'elle a besoin d'un régime politique qui reconnaît et protège la liberté et aussi la libre discussion. Car si la science, on peut dire, apparaît aussi dans la Grèce en même temps que la démocratie, c'est parce que ce qu'on invente, c'est justement un espace où chacun, animé par le seul souci de la vérité, confronte son point de vue avec les autres. C'est la base indispensable à tout travail scientifique. Et c'est la démocratie qui, par construction, crée les conditions de ce débat contradictoire où l'autorité d'un argument l'emporte sur l'argument d'autorité. Donc, plus généralement, la démocratie est le régime qui vise à ancrer l'ordre de la cité dans l'infinie diversité de l'expérience d'hommes et de femmes de toutes conditions, et non pas sur la représentation abstraite que tendrait à en donner une science ou une autre. Autrement dit, la démocratie met en œuvre le fait que la compréhension de la société suppose un retour réflexif sur l'expérience qu'en ont ses membres. Elle ne peut donc se réduire à son observation comme un objet extérieur, ce qui a été la tendance, on pose la société devant soi comme un objet. Et pour la comprendre, il faut aussi passer par l'intérieur. C'est ce que Vico, je ne rate jamais une occasion de citer Vico, fut le premier à théoriser sous la formule très connue « verum esse ipsum factum », le vrai et le faire même. La société est faite par l'homme en tant qu'animal politique, et si les sciences sociales peuvent aider à le connaître, seule l'expérience de ses membres permet de le comprendre. Autrement dit, la connaissance du monde repose sur l'expérimentation scientifique telle qu'elle a été développée depuis Bacon et le tournant des sciences modernes, qui saisit ce monde de l'extérieur pour identifier les lois scientifiques qui le régissent. En revanche, la compréhension d'une société repose sur l'expérience infiniment variée de ceux qui la composent et sont appelés, en régime démocratique, à participer à l'élaboration des lois humaines qui régissent. Je ne veux pas dire par là, je fais une petite incidente, que l'entreprise des sciences sociales n'aurait pas de valeur. Loin de moi, cette pensée. Et si on peut faire une comparaison, prenez comment appréhender un phénomène comme la pauvreté. Vous pouvez faire des études sociologiques, historiques, compter, faire des enquêtes, rendre compte de ce qu'est la pauvreté. Bon, vous allez avoir une connaissance des phénomènes de la pauvreté. Mais l'on peut dire, et c'est l'expérience d'ailleurs que font des associations comme ATD Carmonde ou autres qui ont fait même des ouvrages à partir de ça, que l'expérience même de celui qui dort dans la rue quand il fait moins 5 dehors, l'expérience au quotidien de ce qu'est une situation de grande misère, n'est pas donnée par la vue extérieure. Et donc le problème pour avoir une intelligence d'un phénomène comme la pauvreté, c'est d'arriver à associer les données objectives, quantifiées, enquêtes, tout ce que vous voulez, mais aussi de donner la parole aux pauvres qui, le plus souvent, est réduit à l'état d'un objet des sciences sociales auquel on ne donne pas la parole. Et c'est une des raisons pour lesquelles la démocratie, à supposer que les pauvres puissent encore avoir voix au chapitre, est irremplaçable, certainement, par la science. Et ainsi que nous l'avons vu dans le cours des deux dernières années sur la justice sociale internationale, la proclamation des droits économiques et sociaux a résulté au XXe siècle, justement, de l'expérience historique des deux guerres mondiales, et la référence à cette expérience est explicite dans la déclaration de Philadelphie. Vous voyez que ce matin, vraiment, il y a tous mes favoris, Vico, Philadelphie, Simone Veil. L'expérience a pleinement démontré le bien fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l'OIT, d'après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale. C'est cette expérience qui est objectée à toutes les dérives qui avaient pu être celles, en particulier dans le cas du nazisme, de l'expérimentation sur les êtres humains.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 2 décembre 2016, Alain Supiot, des bases juridiques médiévales de la démocratie aux bases dogmatiques de l'époque moderne à aujourd'hui. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours d'Alain Supiot et la vidéo qui présente l'Institut d'études avancées de Nantes. Le juriste a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Je rappelle également sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social » chez Fayard en 2013. Enfin, les actes du colloque de Cerisy, qu'il a co-dirigé avec Pierre Musso, « Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ?» ont été publiés chez Hermann en 2018. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Alain Supiot l'analyse des figures juridiques de la démocratie économique. Et dans quelques instants, voici les petits matins. Bonne journée à l'écoute de France Culture.